Bonsoir. Six éco-gardes ont été tués et grièvement blessés hier dimanche à la suite d'une attaque perpétrée par un groupe armé dans le parc national de Virunga, au Nord Kivu, selon l'administrateur du territoire de Rutshuru. Selon des sources sur place, ces rangers avaient été attaqués par des miliciens Maïmaï qui leur ont tendu un piège dans le fin fond du parc situé entre Nyamitutui et Nyamilima. Ces victimes viennent s'ajouter au nombre de 21 gardes-parc tués l'année dernière dans le parc de Virunga. Comment expliquer cette nouvelle attaque contre les gardes-parc? Que faire pour mieux sécuriser les parcs nationaux de la RDC? Nous en parlons ce soir avec le professeur Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Jean-Claude Mbabazé, président de la coordination territoriale de la société civile de Rutshuru au Nord Kivu. Jean-Claude Mbabazé, bonsoir.
Oui, bonsoir Madame Kili, bonsoir à tous les auteurs de la radio Kapi.
Et Florence Sitwaminia, coordonnatrice de l'ONG Centre de Recherche sur l'environnement, la démocratie et le droit de l'homme, Credo en sigle, basé à Goma au Nord Kivu. Madame Sitwaminia, bonsoir.
Bonsoir Madame la journaliste et bonsoir les auditeurs de la radio Kapi.
Vous êtes nombreux auditeurs des radios Kapi à réagir au thème de ce soir. J'en déduis Lusenge depuis Butembo Nord Kivu. S'il est vrai que le piège était tendu par les Maïmaï, cela peut être dû aux revendications sans suite de la population locale qui réclame leur champ déjà intégré sans contrepartie au parc. Josias Akunga, nous condamnons avec la dernière énergie les attaques dont sont cibles nos frères qui ont accepté de travailler pour la sauvegarde de la biodiversité malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Merci de nous suivre à Goma au Nord Kivu sous la 95.5 et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Radio Kapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
Je l'ai dit au Nord Kivu, six gardes-parc ont été tués et un autre blessé hier dimanche matin à la suite d'une attaque de leur campement par des combattants Maïmaï selon l'administrateur du territoire de Rutshuru. Cela s'est passé dans l'espace situé entre Nyamitutui et Nyamilima, dans le secteur centre du parc national de Virunga. L'ICCN, qui confirme l'information, condamne cette énième attaque contre ses positions dans cette zone. Plus de détails avec Rosalie Zawadi.
Ces gardes dont l'âge varie entre 25 et 30 ans ont été tués autour des 9 heures dimanche matin. Ils étaient dans la zone pour assurer la surveillance et la protection de la clôture électrique érigée pour d'une part empêcher les animaux de quitter les parcs pour détruire les cultures des paysans et d'autre part pour empêcher les paysans d'aller cultiver les parcs. Ces victimes viennent s'ajouter au nombre des 21 éco-gardes tués l'année dernière dans les parcs nationaux des Virunga, dont une dizaine dans cette zone, indique Olivier Moukissia, chargé des communications locales à l'ICCN. Pour lui, c'est un début noir de cette nouvelle année pour les gardes des parcs. L'administrateur du territoire de Rutshuru indique que ce sont deux groupes Maïmaï, l'un basé à Binza et l'autre venu de Tchanika, qui ont attaqué les gardes des parcs. Justin Moukanya ajoute que trois combattants Maïmaï ont été tués dans les échanges des tirs. Il précise que les opérations de ratissage se poursuivent dans la zone et sont menées conjointement par les éléments FRDC et les gardes des parcs. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Merci Rosalie Zawadi pour ce reportage. Le professeur Cosma Wilungula n'est pas encore avec nous. Nous l'attendons dans cette émission. Jean-Claude Mbabazé, président de la coordination territoriale de la société civile de Rutshuru, au Nord Kivu. Comment vous expliquez, Jean-Claude, cette nouvelle attaque contre les gardes parcs?
Oui, merci beaucoup Kelly. D'abord, je présente ma compassion auprès de toutes ces familles éprouvées et même à la famille de l'ICCN qui vient de perdre encore ses vaillants éco-gardes pendant qu'ils étaient en train de protéger notre parc national de Virunga qui est un site de patrimoine mondial. Sinon, par rapport à l'explication de cette attaque, d'abord, faut dire que il faut noter qu'il y a une léthargie dans l'attaque de tous ces groupes armés qui sévissent dans notre territoire. C'est notamment donc ces Maïmaï AFRC qui opèrent dans cette zone de Binza et même dans la zone de Tchanika. Et il faut dire qu'ils sont là depuis très longtemps. Et leur zone d'opération est vraiment connue. Et c'est des gens qui, en tout cas, sont constitués beaucoup plus par des enfants de Nyamilima, Lubero, un peu dans toutes ces zones qui entourent le parc. Et pour nous, en tout cas, il y a d'abord cette léthargie du gouvernement de traquer tous ces bandits. Deuxième élément, il faut dire que c'est vrai que le parc est confronté à beaucoup de défis parce qu'il a été envahi depuis qu'il y a eu des guerres. Et dans cet envahissement-là, il y a des gens, en tout cas, même localement, des grands commerçants qui sont connus localement, même dans la zone de Nyamilima, qui, en tout cas, ont cultivé des cultures pérennes dans le parc et qui, aujourd'hui, quand les gardes-parcs veulent restaurer l'intégrité de tout le parc, veulent faire la démarcation et puis même respecter les limites, semblent ne pas être compris, alors qu'ils sont dans leur mission et ce sont ces gens-là qui continuent à alimenter ces maïmaïs, qui continue à les appuyer, que ce soit même sur le plan politique, sur le plan financier, afin que ces gens-là viennent déstabiliser les gardes, afin qu'ils continuent à occuper des parties dans ce parc. Mais également, il faut dire que localement aussi, il y a vraiment un soutien, ça je l'ai dit, de certains politiciens qui, en tout cas, ont promis des terres dans le parc et qui aujourd'hui, le fait qu'il y a maintenant la clôture qui est en train d'être construite pour, ne plus permettre aux gens d'aller envahir le parc, mais également d'empêcher les animaux de venir faire la déprédation des champs des populations. Alors ces politiciens-là qui comprennent qu'ils n'ont plus de discours à donner, sont en train de faire tout pour financer ces maïmaïs afin de venir déstabiliser ces travaux que nous considérons salutaires. Et c'est comme ça que, en tout cas, il y a ce groupe-là qui est venu de Tchanika, dirigé par Jackson Mounkabuto, il y a des jeunes de milliers comme Jado et Kadima qui dirigent ces maïmaïs, auxquels s'est ajouté un certain Kaboté qui est dans la zone et qui sont venus maintenant attaquer les gardes qui étaient en train de faire leur travail de routine.
Jean-Claude Mbambazé, vous avez parlé de certains politiciens qui avaient promis des terres, ils avaient promis des terres à qui? À la population riveraine?
Tout à fait. Lors de différentes campagnes électorales, ces politiciens ont promis que non, voilà, ils vont faire tout pour que ces populations envahissent et occupent les terres qui sont dans le parc. Et comme aujourd'hui maintenant, l'ICCN, via la direction de l'État national de Virunga, a entamé des travaux maintenant de clôture électrique pour empêcher non seulement aux gens d'entrer dans le parc pour aller faire des activités illégales, mais aussi d'empêcher les animaux de quitter le parc pour venir déranger la population. Alors, ces politiciens-là, à mal de positionnement, ont compris que d'ici là, ils n'auront plus de discours à donner, et c'est comme ça qu'ils appuient ces groupes armés, afin que maintenant, ces groupes armés viennent déstabiliser les éco-gardes, pour que maintenant, à la longue, il y ait plus un contrôle sur le parc, et que maintenant la population continue à cultiver, et là les moments venus diront voilà, nous vous avons aidé pour avoir accès aux chats qui sont dans le parc.
Donc ce groupe Maïmaï collabore avec la population?
Mais tout à fait, ils collaborent avec la population parce que d'ailleurs les gros sont des enfants de Nyamilima, sont des enfants de la localité de Buramba, tous les ex-Charles, ces Kadimala, ces Jado là, ces Kaboté, sont des enfants de Buramba, de Nyamilima, qui même ces garçons là, il est de Buramba, tous sont des enfants de certaines personnes qui sont dans Nyamilima, qui envoient leurs enfants dans le parc afin de voir maintenant comment, en revanche, ils vont leur protéger pour envahir le parc.
Alors, ces victimes viennent s'ajouter au nombre de 21 gardes-parcs tués l'année dernière dans les parcs de Virunga. Les gardes sont régulièrement la cible d'attaques armées dans ce sanctuaire de gorilles des montagnes. Est-ce que vous pensez que l'ICCN ou le gouvernement avait pris des mesures pour sécuriser et les gardes et les parcs, parce que ces attaques sont devenues quand même récurrentes?
Bon, il faut dire que les mesures sont là, mais quand il y a des bandits qu'on ne traque pas sérieusement, c'est que on leur donne aussi le temps de se réorganiser et pour enfin maintenant commettre ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, si vraiment l'armée devait se mettre sérieusement, en tout cas c'est un groupe qui ne peut pas vraiment dire qu'il peut résister, contre le fait de FARDC. Mais quand il se développe, il se développe aux yeux et aussi de tout le monde. Quand le recrutement s'est fait dans le quartier à Nyamilima, à Buramba, et même dans le site de Lubero, tout le monde connaît que ce sont les enfants de telles familles qui sont là-bas, mais on ne fait rien. Mais également, quand on voit des policiers venir sensibiliser les gens, lancer des messages dans les réseaux sociaux, sur les radios, on ne fait rien. Et donc, pour nous, il est vrai, en tout cas, on doit dire que le gouvernement semble ne pas prendre la chose au sérieux. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en train de vivre ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui et ce que nous déplorons.
Jean-Claude Mbambazé, il y a Jean-Claude, Jean de Dieu, Lusenge, pardon, qui nous a écrit depuis Butembo, Nord Kivu, qui dit ceci: s'il est vrai que le piège était tendu par les Mai Mai, cela peut être dû aux revendications sans suite de la population locale qui réclame leur champ déjà intégré sans contrepartie au parc. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, il faut dire que c'est vrai, c'est une revendication, mais qui n'est pas fondée. Parce que quand Lusenge dit que non, voilà, leur champ dans les parcs, non. Est-ce que les parcs est protégé par une loi? Les parcs a été délimité par une loi. Et les écogardes, en faisant leur travail, ils ont la mission de protéger ce parc-là. Et donc, quand les gens envahissent le parc, ils vont faire des activités illégales comme la culture dans le parc, le braconnage, la pêche illicite, tout ça. Ils ne doivent pas dire que non, prétendre dire que non, voilà, ce sont leurs chats. Non, ce ne sont pas leurs chats, ce sont des chats qui sont dans le parc. Mais comme maintenant il y a cet appui des politiciens qui pensent qu'ils peuvent maintenant faire cette pression-là et en croyant que peut-être c'est de cette façon-là qu'ils vont avoir les droits sur ces terres, là c'est anormal. Il est vrai qu'il y a des revendications dans ce sens-là de la population qui réclame des champs dans le parc, mais c'est des réclamations qui sont illégales, d'autant plus que le parc est là, régi par une loi, et le parc doit être protégé par rapport à ses limites initiales qui sont dans la loi.
Florence Sitoaminia, coordonnatrice de l'ONG Centre des recherches sur l'environnement, la démocratie et les droits de l'homme, Credo en sigle. Vous êtes basée à Goma, au Nord Kivu. Comment vous analysez cette nouvelle attaque contre les gardes-parcs?
Cette nouvelle attaque qui vient s'ajouter à plusieurs autres, parce que on a parlé de 21 éco-gardes de l'année passée, mais moi je dirais que dans les 5 ans passés, on est en train d'environner les 200 éco-gardes dans un même parc, donc c'est quand même déplorable. Et le fait que les éco-gardes sont régulièrement attaqués dans ces parcs, moi je pense qu'il y a vraiment des analyses à mener par rapport à la question. Parce que la présence des groupes armés dans les parcs ne fait pas tellement mal à ces protecteurs de l'environnement, mais c'est il est en train d'annuler les communautés et les éco-gardes. Donc la question c'est de dire, bon, certains peuvent dire que c'est par rapport aux réclamations
de la population,
de la communauté, mais cette même communauté est en train de subir les effets de la présence de groupes armés dans le parc. Parce qu'ils n'attaquent pas seulement les éco-gardes. Ils sont en train de kidnapper du jour au jour les membres des communautés. Ils sont en train de tuer par-ci, par-là. Ils sont en train d'appauvrir cette même communauté. Et donc, il y a vraiment des points à approfondir des analyses par rapport à ces questions-là. Prendre seulement l'aspect où les éco-gardes sont attaqués parce qu'il y a des réclamations non répondues, bah, je dirais que cela risquerait de brouiller un peu à l'analyse de la question par rapport à la situation.
Selon Jean-Claude Mbambazé, qu'on a suivi tout à l'heure, ces groupes armés collaborent avec la population.
Bon, il y a toujours des calistrats dans toute population, dans toute communauté, madame la journaliste.
Jean-Claude Mbambazé a parlé aussi de la léthargie dans la traque des groupes armés qui serait aussi à la base de cette nouvelle attaque contre les gardes-parcs.
Oh oui, je suis d'accord avec Jean-Claude. Nous sommes en train de réaliser, nous qui sommes au moins proches des communautés, réalisons que la communauté reste toujours souffrante par rapport à la présence des groupes armés, y compris le protecteur de l'environnement dans les éco-gardes. Parce qu'on réalise que, bien sûr qu'on ne va pas, nous n'allons pas confirmer qu'il n'y a pas des opérations vis-à-vis de ces groupes armés, mais bon, cette léthargie s'explique par le fait que ils sont attaqués d'une manière un peu légère parce que nos éléments de FARDC attaquent un village ou un camp de groupes armés. Quelques deux, trois jours après, les villages sont abandonnés. Mais en même temps, il y a toujours des experts par-ci par-là qui crient que non, le parc ne peut pas être militarisé. Et bon, tout ça, on se dit, mais comment se fait-il que quand il y a la présence des FARDC, les gens crient que le parc est surmilitarisé, alors que la présence des groupes armés n'attire pas beaucoup l'attention. C'est là que j'ai rejoint un peu ce que disait Jacques-Claude, qu'apparemment il y aurait collaboration entre ces groupes armés avec certains politiciens. Et c'est pour cela que cela persiste jusqu'à ce niveau, parce que nous connaissons quand même la force de la FARDC. Et nous ne comprenons pas du tout pourquoi ces petits groupes peuvent persister jusqu'à aujourd'hui.
Alors, il y a aussi ces revendications de la population riveraine qui réclame ces champs déjà intégrés dans le parc, selon certains auditeurs qui nous écrivent depuis Rutshuru.
Bon, Jacques-Claude l'a bien dit que le parc est régi par une loi. Le principe juridique selon lequel ni n'est censé ignorer la loi, est toujours vigueur en RDC. Donc, les communautés disent que les champs sont intégrés dans les parcs. On se demande est-ce qu'il peut y avoir un champ dans les parcs, et c'est là que les choses ne se comprennent pas du tout. Donc, c'est pourquoi je disais qu'il faut vraiment des analyses approfondies par rapport à la question pour essayer de comprendre c'est quoi vraiment la vraie souche de la situation.
Un autre auditeur qui nous écrit de Goma, il s'appelle Antoine Ziraguira. Il estime que les causes de ces attaques ciblées doivent faire l'objet d'une étude approfondie où il faudra associer la population et les autorités locales.
Oui, je suis d'avis avec lui parce que c'est ce que j'ai répété plusieurs fois. Il faut une analyse approfondie. Ce n'est pas vraiment une question à traiter vaille ou alors de manière superficielle. Mais je pense que la répétition de ces attaques devrait aboutir à une analyse approfondie par rapport à la résolution de cette question, parce que il y a autant d'attaques et il y a toujours des promesses, des enquêtes, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons jamais eu le résultat de ces enquêtes-là. Et s'il y a des répétitions des attaques, c'est qu'il y a encore un écart à mener par rapport à la question, parce que c'est aussi les éco-gardes qui protègent notre environnement, ils ont aussi droit à la vie. Ce sont aussi des violations de droits humains qui sont en train d'être menées vis-à-vis de ces éco-gardes-là. C'est pour cela qu'il faut une analyse approfondie où toutes les parties prenantes devraient donner chacun sa vision ou sa manière de voir la question.
Nous attendons toujours le professeur Cosma Wilingula qui a donné son accord des principes, mais là on essaie de le joindre. Il ne répond pas au téléphone. Professeur Cosma, si vous nous suivez, nous vous attendons dans cette émission, dans Dialogue entre Congolais, pour répondre aux questions, aux nombreuses questions des auditeurs. On va prendre pour vous, Jean-Claude Bambazé, cet auditeur qui nous appelle depuis Butembo, au Nord Kivu.
Je suis Mouteke, j'interviens ici Butembo. Condoléances à toutes les familles qui, une fois de plus, ont perdu les leurs dans cette attaque. Ce qui inquiète le plus, et que ces attaques deviennent de plus en plus récurrentes. Cela me pousse à poser certaines questions. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir et chercher à comprendre les motifs de ces attaques? Arrive-t-on à identifier les auteurs, les poursuivre à justice pour chercher à savoir pourquoi ils agissent ainsi et qui les pousse à poser ces actes? Comment l'ICCN collabore-t-elle avec les riverains du parc? Les riverains affamés et sans emploi tirent-ils profit de ces patrimoines? Voilà quelques-unes parmi tant d'autres questions des fonds qu'il faille examiner pour régler durablement cette situation.
Jean-Claude Mbabazé, comment vous répondez à José Mounseke? Vous avez suivi cette série de questions qu'il se pose. Est-ce qu'on prend le temps de réfléchir et chercher à comprendre le mobile de ces attaques? Arrive-t-on à identifier les auteurs, les poursuivre en justice pour chercher à savoir pourquoi ils agissent ainsi et qui sont derrière eux? Comment vous lui répondez?
Oui, donc j'ai en tout cas suivi cette question, ces questions-là avec beaucoup d'intérêt. Je dois lui dire que pour vous dire qu'il faut chercher les raisons, donc les raisons sont connues. Je l'ai dit à madame que, en tout cas, d'abord il y a ce problème de manipulation de certaines personnes hautement placées dans la sphère politique de notre pays. J'ai parlé des députés qui, en tout cas, ont influencé les populations à Bayonne-Parc, mais il y a aussi localement. Je n'utilise pas les conditionnels. Ce sont des choses que je connais parce que j'ai vu sur le terrain. Il y a des grands commerçants à Milima, il y a des grands commerçants à Goma, à Kiwanga, un peu partout, qui ont cultivé des cultures pérennes dans le... Il y a des caféiers, il y a beaucoup de choses là-bas.
Votre ligne se détériore.
Oui, donc je disais que donc par rapport aux raisons, là, il n'y a pas à tergiverser, les raisons sont connues. Ces gens-là, ils veulent appuyer les activités illégales dans le parc.
Alors la question qu'il faut se poser aussi, si ces personnes sont identifiées, pourquoi poursuivies?
Voilà, c'est ça aussi notre question. Ce que je vous ai dit, qu'il y a d'abord la léthargie dans la traque. On ne comprend pas pourquoi l'armée ne veut pas mettre ces gens hors d'état de nuire une fois pour toutes. Parce que comme je vous dis, leur position... sont connus dans ce parc. Il y en a qui sont à Tchanika, il y en a qui sont de ce côté-là vers Kafunzo. Ils sont connus, leur nombre est connu, leurs leaders sont connus. Il y a Jackson de Mokabuto, il y a Jado, il y a Kadima, tout ce monde sont connus. Les gens qui les appuient, quels sont au niveau de l'Ilima, Agome, ils sont connus, mais on ne comprend pas pourquoi l'État congolais, la justice, ne veut pas les prendre et puis les amener devant le tribunal au lieu de continuer à laisser mourir des gens qui se sont donnés pour faire respecter la loi. C'est ce qui nous inquiète, nous, au niveau de la société civile, on ne comprend pas, alors qu'ils ont... Je peux vous dire, madame, que la justice, que ce soit militaire, que ce soit civile, a tous les éléments possibles sur tous ces bandits et même tous les gens qui les appuient, que ce soit sur le plan financier, même sur le plan politique. Tous sont connus et nous nous inquiétons aussi pour ces silences de l'État vis-à-vis de cette situation.
Il y a une autre question que Josué se pose, c'est celle de savoir si les riverains affamés et sans emploi tirent profit de ce patrimoine.
Bon, il faut dire que c'est vrai que il y a des riverains qui sont affamés, mais il faut savoir les missions aussi qui sont assignées à ce parc. Il y a des problèmes, c'est vrai. Il y a des difficultés par rapport aux dividendes qui viennent de ce parc. Mais il faut vous dire qu'il y a quand même un effort qui est en train d'être fourni, comme la construction des différentes centrales électriques dans certains endroits, comme ici chez nous à Rutshuru. Il y a quand même la centrale de Matebe qui aujourd'hui quand même fait la fierté. Et je crois que les bénéfices, on ne peut pas l'attendre d'une journée. Ce parc-là a été, en tout cas, envahi, détruit il y a beaucoup d'années. Et maintenant, pour arriver à faire bénéficier totalement la population riveraine, ça doit prendre aussi un temps et c'est un processus. Et je pense que nous tous ensemble, les populations, tous ensemble, nous devrions nous liguer pour que nous fassions la promotion de ce parc, pour qu'enfin maintenant, on demande les dividendes qui viennent de ce parc. Comment on va demander les bénéfices de ce parc pendant que nous-mêmes, localement, à la population elle-même, certaines personnes, bien sûr pas tout le monde, mais ne contribuent pas aussi à la restauration et même au respect de ce parc-là. C'est ça aussi autant de questions que nous devons nous poser si nous voulons vraiment apporter des solutions pour protéger ce patrimoine mondial.
Florence Sitoaminia, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kisangani dans la province de la Tchopo.
C'est Paulin Bolenga depuis Kisangani. À mon avis, je pense que pour sécuriser les sites des parcs nationaux, il faut qu'il y ait des échanges entre les autorités et la population riveraine, et que celle-ci, ensemble avec les gens de sécurité, puisse éradiquer cette insécurité. Car on n'arrive pas à comprendre que chaque fois qu'on a enregistré des dégâts et des tueries dans nos parcs, et les autorités restent calmes, c'est comme si rien n'a été fait. En tout cas, cette fois-ci, l'État doit appliquer de nouvelles mesures, comme l'installation d'une bataillon dans tous les lieux où se trouvent nos parcs et cela doit se faire en collaboration avec la population locale.
Florence, si toi, Mounia, cet auditeur vous rejoint un peu dans votre analyse de tout à l'heure, mais il répond aussi à la deuxième question, que faire pour mieux sécuriser les parcs nationaux de la RDC? Il propose qu'on installe des bataillons dans tous les lieux où se trouvent nos parcs et cela doit se faire en collaboration avec la population locale.
Oui, oui, effectivement. Je pense qu'il y a de cela 2 ans, si je me rappelle bien, il y a eu une cellule qu'on appelle Corpepen. Je ne me rappelle pas bien de la définition, mais je sais qu'il y a une cellule qu'on appelle Corpepen qui est déjà prévue au niveau de l'ICCN, au niveau national. Et c'est une cellule qui est composée des éléments qui devaient être installés en sein des parcs pour la sécurisation du parc. Je rejoins un peu l'idée du collègue Kisangani et dire que est-ce que l'ICCN et le gouvernement en collaboration peuvent installer ces cellules en sein des parcs pour la sécurisation des 10 parcs? Parce que, bon, quand nous essayons un peu d'analyser la question, nous réalisons comme si le gouvernement semble ne pas être trop préoccupé par la protection des écogardes et la protection des parcs, la sécurisation des parcs ainsi de suite. Nous réalisons comme si la question de la protection des parcs a été abandonnée seulement à l'ICCN, alors que ça devait être la conjugaison des efforts et du gouvernement et de l'ICCN qui est un service technique du gouvernement.
On me signale qu'il y a un autre auditeur qui est en ligne. On va le prendre pour vous, Florence Sitoaminia.
Maître Josué Sani, intervenant dans le territoire de Chabunda. Franchement, la sécurité reste un grand défi qui gangrène le sol congolais. Ce n'est pas surprenant de voir les parcs nationaux attaqués. C'est juste un signe qui montre à la face du monde que, en République démocratique du Congo, l'insécurité est au top. À mon avis, l'objectif de ces attaques à répétition vise qu'à faire disparaître les espèces rares. Eh bien, il est difficile pour l'État congolais de sécuriser les espèces animales se trouvant dans nos parcs nationaux, alors que les citoyens congolais meurent tout le temps.
Réaction, Florence Sitoaminia.
Je serais d'avis parce que toutes les fois qu'il y a la présence des groupes armés dans les parcs constitue une attaque vis-à-vis des espèces rares, vis-à-vis même vis-à-vis de la faune et de la flore en général. Ces groupes armés, il faudrait se demander comment ils se nourrissent dans la brousse. Il faudrait se demander comment ils sont en train de survivre là-bas et qu'est-ce qui est à la base de leur existence. Est-ce que ce ne sont pas l'exploitation de la faune, de la flore, parce qu'on observe un peu au niveau du parc de Virunga où il y a la carbonisation au sein des parcs et il y a l'exploitation des produits halieutiques du lac Édouard qui se trouve dans les parcs. Et il y a le braconnage aussi, le trafic illicite des espèces fauniques et floristiques. Donc c'est vraiment une question qui semble vraiment anéantir la présence de nos parcs, alors que nous sommes en train d'aller vers, de converger vers avoir 17% de terres protégées au sein de la RDC, tel que le dit toujours le président de la République. Mais il y a encore la question des groupes armés dans les parcs qui est en train de détruire régulièrement. On se demande quand est-ce que nous allons atteindre les 17% alors qu'il y a toujours des éléments qui sont en train de détruire au fur et à mesure. Donc nous risquons d'arriver dans les 5 ans où on n'aura plus, peut-être nous n'aurons plus assez de végétation comme nous le voyons maintenant, nous n'aurons plus assez d'espèces rares ou d'espèces protégées parce que il y aurait eu présence des groupes armés pendant longtemps dans nos aires protégées.
Jean-Claude Babazé, que faire pour mieux sécuriser les parcs nationaux de la RDC? Il y a cet auditeur, Marie-Paul Awa, qui nous écrit depuis Kisangani, dit ceci, c'est bien dommage et lamentable, ces tueries à répétition des guerres de parcs en RDC, ce qui prouve à suffisance que la RDC est un pays à haut risque où l'insécurité bat son plein à tous les niveaux. Le diagnostic de la résurgence des tueries des guerres de parcs et des aires protégées démontre que la RDC n'a mis en place aucune politique de sécurisation des patrimoines et de ses agents. À mon avis, la RDC doit mettre en place une politique réactive, préventive de la sécurisation des parcs et des aires protégées de la RDC, dénicher toute implication des autorités politico-administratives à l'activisme des groupes armés en quête des ressources naturelles dans les parcs en RDC, instaurer un système numérique de sécurisation par des drones des parcs et des aires protégées, doter les gardes-parcs des moyens militaires sophistiqués afin de traquer les braconniers ainsi donc les rebelles. La sécurité grandissante des parcs nationaux de la RDC occasionne un manque incommensurable pour le tourisme de ce pays.
Oui, donc je crois que par rapport à ce qu'il faut faire, hein, il faut d'abord, comme je dis, faire respecter la loi. Parce que la RDC, on a quand même de belles lois par rapport à la conservation de la nature, mais qui, jusqu'à présent, ne sont pas appliquées. Et encore une fois, ces mêmes lois sont en train d'être violées par les gens qui les ont, qui ont légiféré et qui ont voté ces lois. Ce sont les mêmes personnes qui viennent encore intoxiquer la population à ne plus respecter la loi. Il y a ce fameux corps PPN, en tout cas, qui existe encore sur papier. Il était prévu qu'on dote en tout cas tous les parcs nationaux des militaires capables de faire face à ces bandits, mais jusqu'à présent, c'est resté lettre morte. Qu'est-ce que le gouvernement attend pour mettre en place le corps PPN pour sécuriser les parcs nationaux? Mais également, il y a aussi cette capacité-là de garder parcs. Donc il faut qu'ils aient aussi, en tout cas, une loi plus large qui leur donne aussi contre tous ces groupes armés. Et je pense que là, ça peut aider. Mais également, dans le programme de traque des groupes armés, en tout cas, nous pensons qu'il faut que l'État fasse encore beaucoup d'efforts pour traquer tous ces groupes armés. Parce que, comme vous le savez, dans le territoire de Rutshuru, en tout cas, je peux vous dire, madame, que tous les groupes armés qui sont dans le territoire de Rutshuru sont dans le parc et ils sont localisés, ils sont localisables, mais on ne comprend pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment un effort sérieux, mais un timing pour que ces gens-là soient chassés de ce parc. Ça, c'est le premier élément. Mais deuxième élément, nous pensons aussi que il faut qu'il y ait du côté de la justice. La justice doit faire son travail parce que tout ce monde-là qui instrumentalise cette population, tous ces politiciens, ces grands commerçants qui bénéficient de ces activités illégales de ces parcs-là, ils sont connus, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Et même parfois, la justice doit nous aider parce que quand il y a certaines personnes qui sont parfois envoyées à la justice, c'est 2-3 jours après, ils sont libérés sur influence de certains politiciens. Et ça frise un peu les efforts que les gens consentent pour la protection de ce parc. Mais troisième élément, en tout cas, je crois que nous avons le devoir, la société civile et tout le monde, de sensibiliser nos populations afin de se désolidariser de tous ces groupes armés parce que si, comme Mme Stemouigna a dit, si ces gens vivent dans le parc, en tout cas, ils mangent, ils se vêtissent, ils vivent là comment? Certainement qu'il y a une collaboration qui est accrue par certaines populations, par certains politiciens, et même au sein de l'armée, il y en a aussi qui collaborent. Parce que comment ces gens trouvent les armes? Comment ces gens trouvent des tenues militaires? Comment ils trouvent des munitions? Tout ça, ça prouve qu'il y a quand même une certaine complicité à tous les niveaux. Et il faut démanteler ce réseau-là pour qu'on se rassure qu'on a mis fin à l'activisme de ces groupes armés et ce sera vraiment une bonne façon de sécuriser, que ce soit le parc national de Virunga, mais également aussi les riverains qui sont victimes collatérales de tout ce qui se passe comme insécurité au sein du parc national de Virunga.
Merci Jean-Claude Mbabazé, président de la coordination territoriale de la société civile de Rutshuru, au Nord Kivu. La réalisation me signale que le professeur Cosma Wilungula est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Vous nous rejoignez à presque 10 minutes de la fin de l'émission. On va vous poser quand même quelques questions que les auditeurs ont envoyées. La première question est celle de savoir d'abord comment vous expliquez, vous, ICCN, cette nouvelle attaque contre les gardes-parcs.
En fait, vous savez que nous sommes suffisamment très déçus. Nous savons que toutes ces attaques c'est pour décourager les actions de développement que l'IGCN est en train de mener dans ce parc. Virunga est un site du patrimoine mondial. C'est un parc emblématique à travers le monde. Et il est incroyable que ça ne soit pas nous, le Congolais, et la population du Nord Kivu qui ne comprend pas la place de ce parc et l'intérêt que ce parc apporte dans cette région. La disparition de ce parc peut même entraîner presque toute la disparition de cette province du Nord Kivu parce que plus personne n'y viendra et ça ne représentera presque aucun autre intérêt. Donc ce parc a un rôle très très important et nous ne pouvons pas nous expliquer que même les populations riveraines qui bénéficient des services de ce parc, aucun politicien, aucun homme d'affaires du Nord Kivu ne peut faire pour cette population ce que l'ICCN est en train de faire à cette population. Personne ne peut le faire.
L'ICCN fait quoi, monsieur Cosma?
Démagogues et autres.
L'ICCN fait quoi pour cette population riveraine?
Mais aujourd'hui, un parc comme le parc de Virunga, rien qu'à son propre sein, le parc de Virunga a déjà plus de 800 gardes, donc 700 et plus gardes, qui sont tous les enfants de ce coin. Regardez le nom de ces 6 qui sont morts, comment ils s'appellent et ils viennent d'où. Ils sont tous leurs propres enfants et ils sont en train de tuer leurs propres enfants. Toutes ces centrales hydroélectriques, 6 centrales hydroélectriques dans le programme qui est en train de se faire. Ça vous fait plus de 120 mégawatts et ça vous fait plus de 100 000 emplois. Quelle est la société du Nord Kivu qui peut créer 100 000 emplois? Toute l'administration publique ne peut pas créer 100 000 emplois dans toute la province. Mais regardez ce qu'il y a. Vous avez des usines de savonnerie, de chocolaterie et beaucoup d'autres activités pratiquement au bénéfice de la population qui sont en train d'être réalisées. Au monde, il n'y a pas un seul parc qui a déjà créé de structures comme celle-là pour le développement de la population. Je vous dis bien au monde, et je mesure, je suis un scientifique, je sais de quoi je parle.
Alors,
parce
monsieur
que ça
Cosma,
ne peut pas se faire.
Monsieur Cosma, oui. On pointe du doigt les Maï-Maï. Parmi nos invités, Jean-Claude Mbabazé, qui est président de la coordination territoriale de la société civile de Rutshuru au Nord Kivu, dit que les auteurs de ces attaques à répétition sont connus, mais pourquoi ils ne sont pas poursuivis?
Mais c'est ça le problème. Qui ce sont des Maï-Maï, ce sont aussi des enfants de la région. C'est parce qu'il y a des complicités à tous les niveaux. Vous savez, la réalité, c'est que les politiciens, pour des raisons électoralistes, essayent pratiquement d'assujettir la communauté et envoyer la population. Ils ont pris en otage leur propre population et pouvoir pratiquement, je dirais même, une population qui est devenue presque mécaniquement au service de la pauvreté envoyée par des politiciens pour des raisons électoralistes. Ces Maï-Maï-là sont des jeunes de cette même population qu'on veut seulement arrêter pour détruire lorsqu'on fait des clôtures électriques. Mais c'est pour protéger le champ des populations, pour que les animaux n'aillent pas détruire les champs des populations. Mais ils interprètent les champs électriques pour les empêcher de venir détruire les parcs. Oui, mais c'est à cause du parc que tous ces investissements viennent dans cette province du Nord Kivu et dans cette ville de Goma. Ces gens-là sont connus, mais qui doivent les arrêter? Ce n'est plus la mission de l'ICCN. Qui doit mettre fin à tout ça? Ce n'est pas la mission de l'ICCN.
Mais l'ICCN doit dénoncer.
Il y a un gouvernement provincial. Il y a toutes les structures de l'État qui fonctionnent. Mais les complicités sont au milieu de même pour personne. Qui va arrêter qui dans cette réalité qui est en train de se passer dans le Nord Kivu? Parce qu'eux-mêmes sont complices de l'insécurité et c'est comme ça qu'ils ne peuvent pas arrêter leurs propres enfants et ils sont prêts eux-mêmes à aller même jusqu'au niveau de l'Assemblée nationale raconter des choses pendant qu'ils connaissent qui fait quoi dans le Nord Kivu. Ils le savent et tout le monde le sait.
Alors, il y a un auditeur qui nous a écrit de Butembo, Jean de Dieu, qui dit ceci. S'il est vrai que le piège était tendu par les Maï-Maï, cela peut être dû aux revendications sans suite de la population locale qui réclame ces champs déjà intégrés sans contrepartie dans le parc.
Non, il y a toutes les contreparties. D'abord, il est interdit d'aller cultiver dans le parc. Mais les gens font tout pour aller cultiver dans le parc. Vous savez que le parc de Virunga représente 13, presque et demi, de la superficie de toute la province du Nord Kivu. Vous réalisez 13% et regardez peut-être les 83 autres pourcents ou les 87%. Qu'est-ce qu'ils en font? Quelles que soient les agglomérations, Beni, Butembo, et Lubero et la ville de Goma. Toutes ces agglomérations représentent combien? Pourquoi les gens ne vont pas en dehors du parc, jusque vers Walikale, jusque vers la route qui mène vers Kisangani ailleurs? Il y a énormément de forêts où les gens peuvent aller cultiver, mais c'est parce qu'il faut ces alliances contre nature qui font que l'insécurité dans leur région les empêche d'autres. Ils créent sciemment l'insécurité pour pousser tout le monde autour du parc. Aujourd'hui, il y a plus de 4 millions d'hommes, rien que dans les 100 kilomètres autour du parc. Comment on peut arriver à faire cet aménagement du territoire qui est en train aujourd'hui de leur donner, ils sont en train de tuer leur poule aux œufs d'or qui devrait leur apporter davantage ces bénéfices-là.
Alors,
donc, ils peuvent arrêter ça s'ils veulent bien.
Mais professeur Cosma Wilungu, là, nous aurions vraiment souhaité vous avoir en début d'émission. Malheureusement, vous ne répondiez pas au téléphone. Là, nous courons derrière le temps. Qu'est-ce que vous vous proposez pour sécuriser les parcs nationaux de la RDC? Il y a Maître Claude Kaunga depuis Bukavu au Sud Kivu qui pense que pour résoudre ces problèmes, l'État congolais doit dialoguer avec les populations riveraines de ce parc, revoir les limitations de ces parcs et surtout donner aux populations riveraines des endroits à exploiter.
Non, le problème n'est pas un problème de la population. Ça, c'est naïf lorsqu'on réfléchit encore de cette manière-là. Le problème, c'est que nous sommes en face d'une population qui est prise en otage par ses leaders. Le même leader, son leader des groupes armés, et son leader politique de population, et son leader économique du coin, et ce sont eux qui ont pris en otage cette population. Il est inutile de vouloir négocier avec une population qui ne comprend même pas ce que c'est un parc. Mais ce sont ces hommes politiques. Si les politiciens, les hommes d'affaires du Nord Kivu et tous les hommes, les intellectuels du Nord Kivu se mettent ensemble et disent aujourd'hui, fini l'exploitation du parc, ça va se faire. Mais ce sont eux qui alimentent ça. Les politiciens du Nord Kivu alimentent ça, les commerçants du Nord Kivu alimentent ça, les intellectuels du Nord Kivu alimentent ça parce qu'ils y trouvent tous leurs bénéfices et leurs intérêts individuels. Les populations n'ont rien à voir parce que ce sont des gens, quand nous leur parlons, quand nous les visitons. Ils sont suffisamment de bonne foi, mais ce sont des naïfs qui sont pris en otage par leurs leaders, qui sont en même temps les chefs de Mai Mai. Ce sont les mêmes politiciens qui sont des chefs de Mai Mai, les mêmes hommes d'affaires qui sont des chefs de Mai Mai, ce sont eux qui encadrent les FDLR, ce sont eux qui sont dans le réseau. Plus de 150 millions de dollars, madame, circulent dans cette région, dans la carbonisation du Makala, dans la pêche illicite, dans tout ce qui sort du parc. Voilà en fait ce qui fait la richesse de cette région et l'égoïsme de tous ces acteurs politiques, économiques et culturels dans la région du Nord Kivu.
Et qu'est-ce que vous proposez comme solution pour mieux sécuriser les parcs nationaux en RDC, de la RDC?
Moi, je pense qu'il faut une prise de conscience de ces acteurs que je viens de citer, qu'ils prennent conscience, qu'ils se réunissent et avec nous, l'ICCN, avec nos bailleurs, avec nos partenaires et avec le gouvernement central, qu'on fasse une conférence ou un état général ou je ne sais quoi qu'on va faire à Goma, qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise de vérité parce qu'on se connaît suffisamment et on connaît qui est quoi et qu'est-ce qu'on est en train de faire.
Merci professeur Cosma Wilungula, directeur général de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN en sigle. On va considérer cela comme votre conclusion. Jean-Claude Mbambazé, un mot pour conclure.
Bon, je crois que pour conclure, nous pensons que ce parc national de Virunga, en tout cas, nous devons la vie à ce parc et nous devons tous le protéger. Mais également, j'appelle encore une fois tous les enfants des territoires de Rutshuru de se désolidariser de ces groupes armés, de respecter la loi et de protéger notre parc qui est en tout cas l'unique presque au monde par rapport à sa biodiversité.
Merci Jean-Claude Mbabazé. Florence Sitoua-Minia, coordonnatrice de l'ONG Centre de Recherche sur l'Environnement, la Démocratie et les Droits de l'Homme créé dans Sigle, basé au Nord Kivu, à Goma précisément. Votre conclusion?
Merci. Nous n'allons pas tuer ou sacrifier les éco-gardes pour protéger les parcs. Nous n'allons pas non plus éliminer les parcs à cause des groupes armés. Où nous n'allons pas non plus violer les droits des communautés à cause de la protection du parc. Nous devons concilier les tout ensemble. C'est pour cela que, à terme de conclusion, je reviens un peu à l'ICCN, même si le directeur disait que ce n'est pas l'affaire de l'ICCN d'intervenir toujours dans la sécurisation du parc, mais je reviens un peu à l'ICCN comme service technique du gouvernement par rapport à la protection de l'environnement. que l'ICCN intervienne et qu'il mène encore plus d'action vers le gouvernement dans le cadre des plaidoyers pour la protection du parc, la protection des éco-gardes, mais aussi un dialogue franc, comme le disait le directeur, entre les différentes parties prenantes, dont le gouvernement, l'ICCN, la communauté et tout le monde qui intervient, qui est derrière la question sur la protection de l'environnement.
Merci Florence. Si toi, Minia, Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé dans sa préparation. Guy Maté, Dona Madimba, Axel Gonjo. Merci à Polydor Basunga qui était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Couté. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.